votre radio Autre Culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. À l'occasion des Audio Days 2011, Jean-Marc Lotel nous présente la première partie de la conférence « L'ambisonique ou le double processus créatif ».
Donc on va se lancer, on est un petit peu atypique Klaus et moi sur ces journées dans la mesure où on est des utilisateurs, on n'est ni fabricant, ni inventeur, ni concepteur. Par contre on commence à avoir une idée assez précise de ce qu'on aimerait demander aux fabricants, aux concepteurs et aux inventeurs. Donc c'est peut-être bien de pouvoir une fois parler, pas que technique, on a des tas de choses sur lesquelles on avance. On se situe plus comme des gens qui sont créatifs, on n'est pas forcément des artistes, avec le côté péjoratif qui est qu'un artiste oublierait la technique. Nous, on n'a pas oublié que la technique, on l'utilise quotidiennement et qu'on aime faire les choses bien. Mais en même temps, on voudrait très largement dépasser le stade de la technique. La question n'est pas de savoir si on utilise les meilleurs outils. Si tous les jours, on utilisait le meilleur outil pour travailler, ça se saurait. Donc là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'avec ce qu'on a, on essaie d'aller jusqu'à ce qu'on aime. Donc je vais faire une petite présentation du travail que je tente de faire actuellement. Klaus va prendre le relais. Après, il y a un endroit un petit peu plus loin. On peut à la fois répondre à une série de questions techniques parce qu'on va avoir à disposition une session avec des enregistrements en format B qu'on pourra ou écouter si on préfère écouter ou manipuler si on préfère. Le préambule de mon intervention d'aujourd'hui serait de dire qu'on est toujours très surpris, on se dit que le dictionnaire commun, pour parler de la chose sonore, il est à la fois ou très pauvre ou complètement contradictoire. Les gens n'utilisent pas les mêmes mots. Quand ils utilisent les mêmes mots, c'est pour recouvrir d'autres notions. Bon, alors, si on est pessimiste, on dit qu'on est tous mauvais. Et si on est optimiste, on se dit que c'est parce qu'on n'est pas aussi doué que ça. Et une des pistes qui fait que je pense la chose sonore est difficile à traduire en mots, c'est qu'on est presque tous de formation d'apprentissage visuel. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à traduire visuellement les mots qu'on emploie, tant qu'on n'arrivera pas à faire toucher du doigt par un dessin, par un objet, par quelque chose, ça restera très, très nébuleux. Alors, pour parler du travail que je fais, ce qui me plaît énormément dans l'ambisonique aujourd'hui, c'est que c'est du travail créatif sur plusieurs étapes. Dans une première étape, on est à la fois une espèce de photographe. Enfin, ce n'est pas une espèce de photographe. Je voudrais vraiment qu'on mette ça dans la tête des gens qui nous demandent de travailler pour eux, qu'on a le même positionnement, on a la même façon de faire devant notre travail qu'un photographe. Et dans un deuxième temps, quand on rentre à la maison, quand on commence à retravailler la chose qu'on a photographiée, là, on devient sculpteur. Et c'est la joie de l'ambisonique que de pouvoir prendre cette matière qui est la chose qu'on a captée et puis lui donner des formes, lui donner des couleurs. Donc c'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui. J'ai trouvé donc sur le nouveau site de Harpex une magnifique photo qui montre un magnifique objet. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est vraiment un micro format B, si c'est quelque chose de fait pour une présentation. En tout cas, c'est très beau. C'est très beau. Et l'idée, c'est de ne pas oublier qu'en fait, les outils ne sont jamais que des outils. Ça nous sert juste à faire de la traduction. L'important sera toujours l'émotion qu'on arrivera à transmettre avec ces outils. Je prends une comparaison. Il y a un guitariste que j'adore, ça s'appelait Dunalman. Il joue sur la guitare que j'aime le moins, c'est une Gibson. Et pourtant, c'est le guitariste que je préfère. Moi, j'ai toujours adoré les Strats. Est-ce que je lui en veux de jouer sur la guitare que j'aime pas? Non, il a juste trouvé le couplage avec la tête basse Marshall qui fait qu'il a le son qui me rend heureux. On est un peu comme ça dans nos métiers. C'est-à-dire que est-ce qu'on a le meilleur outil? Pas forcément. On a l'outil dont on sait le mieux se servir. Alors, on va passer par-delà les défauts. Enfin, l'idée, c'est qu'on va essayer de dépasser la technique pour parler un peu plus de créativité. Depuis les quelques années où je commence à travailler sur le format B, je peux dire que profondément, ça a changé ma façon d'appréhender mon métier. Au départ, j'étais un preneur de son, fiction, de télévision, et on allait vraiment chercher les choses au plus près. C'est un combat permanent pour attraper le texte d'un comédien, pour commencer à se dégager de choses qui ne nous plaisent pas. Donc on se battait pour aller chercher les choses. Et petit à petit, on s'aperçoit que le format B, eh ben, nous a fait, moi, en tout cas moi, m'a fait profondément évoluer. La deuxième chose que je vais essayer de vous présenter, c'est aujourd'hui quels sont tous les usages sur lesquels on est en train de travailler. Parce que effectivement, on se disait tout à l'heure, est-ce qu'on a le meilleur outil ? Non, là, on a entre les mains un outil qui répond de façon relativement simple à des choses qui, pour l'instant, étaient extrêmement complexes. On verra à la fin comment les mix musique, comment les transports, comment les mouvements sont des choses quand même relativement complexes à rendre avec du micro multicanal et comment, avec un outil qu'on apprend à maîtriser, on réussit quand même à proposer des solutions à la fois simple, à la fois ergonomique, et surtout qu'on peut pratiquer chez nous. Ça, c'est la grande nouveauté. Toute la chaîne de traitement que j'ai essayé de développer est l'idée de dire, si on veut que les gens pratiquent soient à l'aise dans le multicanal aujourd'hui, il faut qu'ils le pratiquent comme ils pratiquaient la stéréo avant. Et c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse la pratiquer à la maison, que ça soit aussi simple, aussi clair, aussi habituel que de pratiquer de la stéréo. Donc il faut pour ça des outils, il faut se les fabriquer, il faut se faire une chaîne, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc pour moi, l'Ambisonic, c'est bien plus qu'une technique, c'est une attitude face à la chose qu'on essaie de capter. Cette attitude, elle est relativement nouvelle et elle va modifier notre façon d'être au moment où on fait l'enregistrement. Alors, on sait que c'est des avantages qu'on va qualifier, dont les maîtres mots vont être liberté, discrétion, créativité. Voilà, ça, c'est la base. N'empêche que, petit à petit, je suis donc, comme je vous le disais tout à l'heure, devenu un photographe, mais pas un photographe statique, un photographe du mouvement. Je développerai plus tard le photographe du mouvement, et je vais tout de suite commencer par me fâcher avec la moitié de l'assistance. C'est quelque chose qui est souvent mis en avant, que je voudrais tout de suite battre en brèche, c'est de dire que ne serait beau et esthétique que la musique. On sait que la musique est quand même une des choses qui, techniquement pour nous, est la chose la plus facile à capter. D'abord parce qu'il y a de l'émotion présente créée par des musiciens. Et je serais tenté de dire, pour être un peu radical, que la seule chose qu'on puisse faire, c'est de la bousiller. Mais en tout cas, elle est là, c'est pas nous qui la faisons. Donc non, il n'y a pas que la musique dans la chose sonore à capter. Et celle sur laquelle on fait tous nos tests, tous nos débats, et finalement la chose qu'on fait le mieux, parce que depuis le temps qu'on a appris à la faire, on commence à maîtriser. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est justement de photographier le mouvement. Le mouvement, on débute dans cet aspect de la captation sonore. Et là, eh ben, ça commence à soulever des problèmes qu'on est juste en train de maîtriser. L'idée, c'est de se dire que pour maîtriser ça, on a besoin de théorie. La théorie, c'est en fait ce qu'on a appris. Le multicanal a une bonne nouvelle depuis le temps qu'on le pratique, c'est que tout ce qu'on a appris sur la stéréo, on n'est pas obligé de le bazarder par-dessus bord. Tout ce qu'on sait sur la ligne qui va de sensation à localisation, sur laquelle on place ses micros, c'était vrai pour les coupes, c'était vrai pour toute la stéréo, c'est bien sûr complètement vrai pour le multicanal. La question, c'est toujours la même, sur ces lignes qu'on connaît puisqu'on les a apprises, où est-ce qu'on se situe ? C'est pour moi la question fondamentale de notre travail aujourd'hui, c'est de dire où est-ce que je me situe ? Et ça va introduire cette vraie modification que le format B apporte dans notre façon de travailler, c'est de dire qu'aujourd'hui, et c'est l'essence même du format B, on ne peut pas concevoir un travail sans se dire « j'ai une position, j'ai un point de vue et c'est de là que je raconte mon histoire sonore ». On ne peut plus se contenter de coller des micros un petit peu partout, d'essayer de capter des informations pour voir ce qu'on pourra en faire après. Aujourd'hui, notre problématique, elle s'est complètement retournée. Elle est de dire où est mon point de vue et où est-ce que je vais me placer. Pour toujours faire cette analogie avec la photo, Donc, la nécessité d'adopter un point de vue, elle est fondamentale, mais c'est surtout, on va reprendre cette phrase de Kertész qui dit que c'est pas le sujet, et nous c'est pareil, c'est pas la chose qu'on enregistre, c'est l'endroit dont on décide de la raconter qui est importante. L'important, c'est notre point de vue. Ça, pour moi, c'est la modification radicale. La deuxième modification avec l'ambisonique, c'est on résout quand même des choses assez simples. Dans mes prises de son quotidiennes, il faut que je puisse marcher, il faut que je puisse descendre des escaliers, il faut accessoirement que je passe des portes, que je prenne un métro. À l'heure où on est en train de débattre de la beauté des systèmes grand OCT et autres arbres, bien sûr que c'est bien. Bien sûr que j'adorerais sillonner la Pampa avec des objets qui font 2 mètres par 4, mais à un moment, c'est plus possible de passer une porte. Donc, il y a une espèce de contradiction entre les objets qu'on utilise et la façon dont on voit notre métier. C'est-à-dire que on a pris, ça n'a pas été trop évoqué dans la première conférence, mais il y a une évidence que plonger un objet de captation dans un bain, c'est fondamentalement modifier le bain qu'on est en train de capter. Ça, c'est une chose qu'on a apprise. Si les micros ont des tailles aussi réduites, c'est pas pour pas prendre de place dans les caisses. C'est juste qu'on veut pas que ça soit un obstacle à la chose qu'on va capter. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire que déjà, l'objet microphonique est un obstacle, modifie la nature de ce qu'on est en train de capter. Et il ne faut pas oublier qu'on est constamment aux côtés de lui. Donc, au bout d'un moment, c'est pas l'adéquation, mais c'est la composante de l'objet que j'utilise et de mon implication et de ma présence à côté de lui qui fait que les choses sont censées ou sont pas censées. Ce qui n'est pas censé, c'est de ne pas tenir compte du fait que être présent avec un matériel de prise de son multicanal va complètement modifier la chose qu'on est censé enregistrer. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se reposer les questions et que pour moi, la réponse ambisonique d'être compact, de me permettre d'avoir une attitude discrète est la chose qui, pour moi, est le principal dans mon travail. Je ne dis pas que la discrétion est une chose, est une vertu. Enfin, que ça serait la seule vertu. La vertu, c'est que petit à petit, on arrive à rentrer dans le cœur des choses, qu'on capte vraiment ce qu'on voudrait enregistrer et qu'on ne capte pas la réaction de l'environnement à notre présence. Au bout d'un moment, il faut tendre à ce qu'on ne soit plus là. C'est-à-dire que réussir quelque chose dont on rêve depuis longtemps et que l'ambisonique rêve de faire depuis longtemps, c'est m'inscrire moi, donc cette espèce de sphère, dans le monde qui m'entoure. Alors, est-ce qu'on a résolu la quadrature du cercle ou pas? En tout cas, c'est ça. C'est toujours tenir compte du fait qu'il y a l'humain qui capte au milieu de la source qu'il est en train de capter. Et c'est ça, la prise de son. C'est pas juste un micro qui capte quelque chose. Donc, bien sûr, le choix du point de vue, la façon d'être au moment de la captation va forcément amener notre dose d'humanité dans les enregistrements qu'on fait. C'est pour ça qu'il ne va pas y avoir deux enregistrements identiques, parce qu'on n'aura pas deux façons identiques de se situer par rapport à la chose qu'on est en train de capter. Et voilà, on peut avoir les mêmes micros chacun, on ne va pas avoir les mêmes résultats, et ce n'est pas qu'une question de timing, de chance, de pas chance, c'est que va transparaître dans notre enregistrement qui nous sommes, et surtout qui nous sommes par rapport aux choses qui apparaissent devant nous. Et il y a une des phrases de Kertész, soumise par Francis, qui me paraît incontournable, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on pense toujours qu'il faut énormément penser notre travail. C'est pas sûr. Notre travail, il doit se faire à l'instinct. Notre travail, il doit sentir quand c'est en train de bouger autour de nous, quand c'est le moment de faire tourner et quand ça va être le moment de tendre à s'effacer. C'est presque le plus passionnant. C'est-à-dire que les gens ont vu que vous étiez là. Il y avait un film où Romain Duris jouait un photographe. N'empêche qu'il photographie des gens qui travaillent. Il met son appareil photo 20 cm sous le museau des gens qu'il photographie. Et les gens, petit à petit, l'oublient qu'il est là et font leur travail quotidien. C'est exactement ça que nous tendons à essayer de faire. C'est-à-dire que les gens savent très bien qu'on est là. Et pourtant, il faut petit à petit qu'on tende à disparaître. On reviendra, si vous voulez, plus tard. Mais pour moi, voilà, ça, c'est la vraie nouveauté de l'ambisonique. Ça, c'est sa force. Alors après, une des forces évidentes, c'est de pouvoir, bien sûr, s'adapter à tous les systèmes de restitution. Il faut quand même rappeler des choses qui ont l'air évidentes, qui sont simples. Mais vous comprenez bien qu'on utilise les mêmes fichiers de captation, qu'on soit en mono, stéréo, 4.0, 5.1, 7.1, 16, 24. C'est quand même juste incroyable comme simplification. C'est peut-être pas ça qui fera choisir un système plus qu'un autre, mais comme système évolutif et comme système plurifinalité, je pense que c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant, avec toujours cette idée qu'il faut retourner la problématique et placer l'auditeur au centre du dispositif sonore. Ça, c'est la vraie nouveauté. C'est-à-dire que si nous nous plaçons, c'est pour replacer l'auditeur au centre du dispositif. Donc voilà pour moi les grandes lignes. Dans un deuxième temps, je voudrais évoquer, et ça serait une partie plus technique, plus de l'ordre de la manipulation, si j'ai amené jusqu'au bout le projet de premier documentaire en relief sonore qui s'appelle, le film s'appelle « Je vous ai écrit du Havre » et qu'on a diffusé au 6B le 19 décembre, c'est parce que je pense que dans ces outils que nous manipulons, il y a une réelle force pour emmener le spectateur au sein d'une histoire. La puissance émotionnelle qu'on est capable de capter avec nos outils me paraît totalement inédite dans les outils professionnels de prise de son. Est-ce que c'est sa compacité? Est-ce que c'est sa philosophie? Est-ce que... J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les verrous qu'on a tenté de faire sauter, qui étaient l'adhésion des réalisateurs à la manipulation de la bande audio au point de placer le spectateur au centre du dispositif sonore, et en passe de réussir parce que les gens commencent à être petit à petit convaincus que ça ne va pas à l'encontre de l'histoire qu'ils voulaient raconter, que mettre les gens avec des informations sonores tout autour n'est pas contradictoire avec raconter quelque chose sur un écran plat. C'était pour moi le premier des combats à mener, et je pense que c'est celui qu'on est en passe de gagner, parce que si d'un seul coup, les gens qui sont en charge des décisions techniques qui ne sont pas les techniciens, c'est forcément, ou au mieux les réalisateurs et sinon les producteurs, s'ils comprennent que notre travail d'immersion est un plus, alors oui, là, on peut avancer sérieusement. En gros, je dis toujours un petit peu la même chose. Quand on me pose la question, c'est pour aborder la partie manipulation. Il est évident qu'on va manipuler nos sons. Aujourd'hui, on a beau se réclamer des photographes, il n'y a pas un photographe qui est capable de me dire « Moi, je tape mon cliché et je n'y touche plus jamais derrière ». Une des parties de la composition photographique va être le retraitement, parce que ça dépend de tas de facteurs. Ça dépendra de la taille de la photo, de l'endroit dans lequel elle va être exposée, de savoir s'il y en a d'autres à côté, si elle est toute seule. Bref, c'est une illusion de croire, et c'est pourtant ce que nous faisons très très souvent en prise de son multicanal, que ce qu'on a tapé, c'est le définitif. Sachant qu'en plus, on est tous pertinemment au courant que le monitoring dont on dispose à ce moment-là, il est plus qu'approximatif, j'ai du mal à imaginer qu'on poursuive dans cette voie en se disant « ça y est, c'est la prise qui est l'élément définitif, on n'y touche plus derrière ». Alors si, bien sûr, maintenant, le plaisir, c'est d'y toucher, c'est de le modeler. On disposait d'outils gratuits, c'est le VMIC. On disposait d'outils payants, c'est le sur-end-zone, mais tout ça nous permet de commencer à travailler dans tous les sens. Parce que voilà, c'est ça la matière qu'on est en train de sculpter. C'est ces espèces de sphères, de huit, qu'on étire, qu'on allonge, qu'on fait tourner dans tous les sens, dont on en rajoute un bout. Imaginez que ça, c'est de la pâte à modeler et qu'on commence à tailler dedans, à lui donner une forme. Une des impasses, je pense, qui nous guette pour l'instant, c'est d'imaginer qu'on doive reproduire le plus fidèlement possible ce qui nous entoure. On a essayé d'aborder tout à l'heure le fait que, en fait, c'est une illusion. Parce que si on est un photographe, on est donc un journaliste. Si on est un journaliste, on sait que c'est une question de point de vue, que c'est l'histoire, elle dépend de nous, de la façon dont on l'a racontée. Donc, au pire, je pense que c'est une utopie, mais je pense que c'est très souvent un contresens de se maintenir que notre boulot à nous serait de faire une restitution fidèle d'une réalité. C'est pas vrai. Notre boulot à nous, c'est de faire une interprétation d'une réalité et, suivant nos choix, de l'amener. Sachant qu'en plus, dans le domaine qui est le mien, le cinéma, les gens, pour l'instant, sont plutôt sur la voie « je voudrais des éléments simples pour créer virtuellement une réalité complexe ». Nous, on est complètement à l'opposé, on est à l'antithèse de cette chose-là. Nous, aujourd'hui, ce qu'on crée, c'est une complexité, même si on sait qu'on va pouvoir isoler chacun des éléments, on crée quelque chose d'assez complexe Mais ce qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit « Ah bah oui, ça serait, c'est bien votre truc parce que ça a l'air simple, ça a l'air de gagner du temps. » Oula, va falloir se calmer tout de suite. L'idée, elle n'est absolument pas de vouloir gagner du temps. D'ailleurs, ce n'est pas notre propos. Notre propos, il est d'ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, avec nos outils, puisque ce n'est pas figé, puisqu'on peut retravailler largement derrière, alors oui, là, on ouvre 10 000 possibilités qu'on peut creuser à l'envi. Alors, un des outils que j'affectionne particulièrement est, par exemple, un des outils faits par Arnaud Damien de Ophonia, qui reprend les canons de l'ambisonique et qui dit, ben voilà, là, vous faites avec le rôle, vous faites le truc basique, vous tournez autour de l'axe vertical, donc ce qui était devant, vous l'envoyez derrière. Pitch, ce que les Anglais utilisent très fréquemment dans les concerts et qu'on n'a toujours pas utilisé en France, qui est de dire, bah tiens, je vais mettre un micro au-dessus de l'orchestre, et puis suivant les pupitres qui vont jouer, je vais aller le chercher en piquant ou en levant. Et puis yo, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup expérimenté, parce que pour ça, il faut poursuivre la voie de du rendu en 3D. Bah, c'est de faire des loopings, faire ce que nous, on appelle la lessiveuse. Voilà trois axes à partir desquels on peut gigoter dans tous les sens, sachant qu'en plus, on peut jouer sur les composantes, donc étirer ou rétrécir, et qu'en plus, avec le fudge factor, qui est une espèce de 1 sur W, on peut commencer à avoir des informations sonores qui, telles des boules, vont être très concentrées au centre, enfin, très concentrées dans notre système de restitution. Et si on tire à l'opposé, on va pouvoir les faire sortir du système de restitution. Donc le nombre des manipulations possibles est assez, assez incroyable. Pour ce faire, avec Olivier, on se dit que comme l'analogie entre la chose visuelle et la chose sonore est quelque chose d'assez fort, je pense qu'aussi il faut qu'on crée des analogies entre la chose tactile et la chose sonore. Je crois beaucoup au fait de toucher le son. Et si on arrive à se fabriquer les outils, alors de travail, ça serait parfait, de démonstration, ça serait déjà bien. Si, au lieu de monter des faders ou des tirettes qui sont très évidents pour nous, mais qui, pour le grand public, sont pas forcément très parlants, on leur fait toucher un objet, on leur fait caresser une table lumineuse, et qu'à partir de ce moment-là, on arrive à jouer sur la chose dans l'espace sonore, alors je pense que là, on va réussir à pouvoir produire des choses, pouvoir faire comprendre assez vite notre travail. Voilà quelques-unes des manipulations, ça peut être faire tourner la sphère, ça peut être tourner autour de quelques paramètres. On construit ces tables à notre demande. Donc, deuxième grande chose qui est arrivée récemment dans la planète ambisonique, c'est l'arrivée d'un concurrent au Suranzone et au Vemic ou au McGriffy, qui est le plug de chez Arpex. Ça fait qu'une semaine que j'ai pu vraiment l'utiliser complètement. Il est quand même extrêmement perturbant et étonnant, parce que le reproche majeur qu'on fait à l'ambisonique, c'est d'être coïncident. Ah ouais ? Bah oui, c'est le principe d'un micro-coïncident, c'est d'être coïncident. Et lui arrive à faire un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est comme il le fait, c'est-à-dire qu'il arrive à faire des rendus, donc XY, on s'en serait douté, Bloomline, bien sûr, mais il commence à faire du AB et de l'ORTF, donc il commence à savoir étirer l'écartement virtuel entre ces capsules. Vous creusez, là, s'il y a des gens qui sont plus pointus que moi. En tout cas, c'est vrai qu'à l'écoute, on pourra écouter tout à l'heure, c'est assez saisissant. Ça va presque un peu à l'encontre de ce qu'on essaie, nous, d'affirmer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger de place et pas s'amuser à gigoter dans tous les sens. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose d'assez universel dans ce plug. Après, sur les plugs 5.1, la grande nouveauté par rapport au Suranzone, c'est qu'il joue sur une autre façon d'appréhender l'espace sonore, et du coup, on se retrouve avec une plus grande sensation d'enveloppement. C'est extrêmement esthétique comme plug, le rendu est assez joli. Est-ce que, effectivement, ce qu'on gagne d'un côté, on ne le perd pas de l'autre ? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la localisation au profit de l'enveloppement ? Toujours est-il que si on mélange les deux, je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas sur la bonne voie. En tout cas, ce que ça sait faire beaucoup plus facilement que ce que nous, on savait faire avant avec les Suranzone, c'est l'empilement de micros les uns sur les autres. Il est évident que c'est un truc qu'on avait trouvé, et j'ai quelques exemples là-bas. De temps en temps, on enregistre une source sonore un peu étendue autour de soi et on se dit, tiens, j'aimerais bien un micro d'appoint sur telle personne, sur tel endroit et tout. L'ambisonique résolvait d'une façon extrêmement simple ce problème extrêmement complexe. Rajouter plein de capsules autour d'un instrument, c'était le début des ennuis, ça fasse dans tous les sens, on ne sait pas comment récupérer. Là, on sait, puisqu'on arrive à créer des micros virtuels, qu'on peut aller zoomer à tel endroit, faire un micro virtuel, puis s'écarter, faire un 8 pour récupérer d'autres informations et l'empiler. Et on pouvait comme ça empiler un certain nombre d'informations sonores sur le même message sans que le moindre début de commencement de phase n'apparaisse. Là, il l'a carrément introduit dans son plug et on peut effectivement se créer un micro frontal, on peut se créer du stéréo à l'arrière, on peut se créer... Donc, ça, je n'ai pas encore expérimenté complètement parce qu'il faut refaire son routing de console, mais c'est vrai que c'est ce qu'on faisait en empilant différents plugs de sur Handzone avant. Là, ça se fait directement en une seule passe. Pour finir, je vais rapidement donc vous raconter la petite aventure de Je vous écris du Havre, qui est donc le premier film qu'on a pu diffuser en relief sonore. Mon idée était de me dire que je ne suis pas la plus grosse machine de guerre concernant le son en relief. Je veux rester dans l'état où je manipule moi-même les outils que j'ai fabriqués, et donc je reste dans l'ordre du raisonnable, puisque je ne suis pas une société, je fais une démarche où, individuellement, il est capable de s'équiper et de faire avancer. Le préambule était donc de rester sur les 8 haut-parleurs, et ça avait été montré au forum multicanal. L'ambisonique, c'est quand même souvent une somme d'évidence qu'on remet sous le museau en se disant bah, « Tiens, c'est vrai, pourquoi on n'y avait pas pensé avant ?» Ce qu'on avait pu montrer au forum multicanal, c'est de se dire que mettre des haut-parleurs aux quatre coins d'un écran de projection de cinéma, c'est pas si idiot que ça. Et on se demande juste pourquoi on n'y a pas pensé avant. Effectivement, parce que peut-être on n'avait pas grand-chose à mettre dedans qui différenciait le haut et le bas. Mais il est évident que mettre quatre enceintes aux quatre coins d'un écran de cinéma donne au son une stabilité, une largeur, une profondeur qui est juste évidente. Donc de cette évidence, si on refait le même carré à l'arrière de la salle, on a le cube. Le cube, c'est le cube de Guerzon, on ne l'a pas inventé. Il est logique. Si mon son, c'est une sphère, quelle est la figure géométrique dans laquelle je pourrais l'inclure la plus facilement? C'est évidemment un cube. Donc on a monté, mixé ce film sur les canons, enfin sur les souhaits de la production. On a fait la version stéréo, la version 5.1. Mais comme j'avais commencé à bien préparer le travail, j'ai eu juste à récupérer les stems du mixage 5.1 pour refaire après le décodage et le travail en son en relief. Et là, ça a été un moment assez incroyable. C'est-à-dire que pour mixer en son en relief, vous ne pouvez plus mixer tout seul. Vous ne pouvez plus mixer comme vous mixez avant. On avait trouvé une disposition qui, à mon avis, peut sembler relativement universelle. C'est de se dire qu'on a une espèce de grand paquebot qu'on conduit. On se met à l'arrière du paquebot et puis on le sent bouger. On prend l'habitude de la position, mais vous ne pouvez pas le contrôler tout seul. Donc vous êtes obligé de mettre des gens dans la salle qui en permanence vous disent « Ah ouais, t'es sur la bonne voie, non, là, il faut bouger plus. » Et ça a été un vrai plaisir, même si on a dû le faire rapidement, que d'imaginer qu'aujourd'hui, un mixage en son relief, ça se fait à plusieurs mains, plusieurs personnes qui commencent à donner des idées, à les corriger. Et bon, moi, j'ai adoré ce moment-là. Je trouve que là, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Voilà, donc je ne sais pas comment Klaus va prendre le relais. Je vais commencer, moi, à m'installer dans un petit coin.
Pour la seconde partie de cette conférence, nous retrouverons Klaus Blaskis très prochainement. Autre radio, autre culture.